Bienvenue sur Avocado Growth Parcours Tech, le podcast où nous vous emmenons dans un voyage captivant à travers les coulisses de la tech. Dans chaque épisode, nous explorerons les histoires inspirantes de développeurs, data scientists, experts en cybersécurité, designers et bien d'autres. Découvrez comment ils ont commencé, les défis qu'ils ont relevés et les conseils qu'ils ont à offrir. Sur Avocado Growth Parcours Tech, vous trouverez une diversité de parcours, d'expériences et de conseils pour vous aider à tracer votre propre voie dans le monde de la tech.
Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Avocado Growth Parcours Tech. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mélanie. Hello Mélanie, comment ça va ?
Ça va et toi ?
Ça va super, merci à toi de nous faire l'honneur d'être là aujourd'hui, ça me fait plaisir de te recevoir.
Ça me fait plaisir de discuter avec toi de mon parcours et de mon travail.
Pour les gens qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter rapidement ?
Oui, très rapidement. Donc, Mélanie Boudard, 34 ans. Actuellement, je suis coach CTO chez PIX, qui est un groupe d'intérêt public qui travaille dans les compétences numériques. Et globalement, je suis une dev un peu curieuse de tout.
Ok. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment tu t'es formée dans ce métier-là ? Donc, toi, t'es dev, ça a toujours été ton métier ou t'as fait une reconversion par la suite ?
Ça a toujours été mon métier, mais sous plein d'angles différents. Ça a toujours été une envie pour moi depuis toute petite en fait, depuis toute jeune. Comme beaucoup de jeunes, j'avais envie de travailler dans le jeu vidéo. Je me suis dit, je vais faire développeur dans le jeu vidéo, ça va être trop cool et tout ça. Donc j'ai commencé à apprendre par moi-même avec les débuts des sites comme le site du zéro à l'époque, avec sur des forums PHPBB que gérais ou ce genre de choses. Et je me suis très vite orientée vers un parcours école d'ingé pour être développeur et développeuse. J'ai fait l'ISEP, l'Institut supérieur d'électronique de Paris, qui est une école privée, donc avec une prépa MPSI-PSI, qui est une école généraliste. Donc, il n'y avait pas que de l'informatique dedans.
C'est touché un peu à tout.
Voilà, j'ai eu le droit de faire de la physique, beaucoup de mathématiques et de l'informatique quand même. J'avais quand même envie de mettre très rapidement les mains dedans, donc j'ai fait toute la partie cycle ingé en alternance et j'ai pu commencer ma première alternance à l'époque dans une start-up parisienne de jeux vidéo.
Ok, donc ton c'était domaine, on va dire, ce que tu voulais un peu faire.
Voilà, c'était les premiers tests. Ça a duré 8 mois à peu près. Comme beaucoup de start-up de jeux vidéo, malheureusement, on n'a pas tenu. C'est un milieu très compétitif. C'était un peu mes premières armes dans le milieu professionnel, en tout cas, avec des technologies de l'époque. C'était de l'ActionScript et du Flex, donc très Adobe.
Quelque
chose que je peux utiliser actuellement. Et alors, quand ça s'est arrêté après, je suis partie à la DSI de Canal+, en tant qu'assistante chef de projet web sur les outillages internes. Donc là, j'avais commencé à lever un peu les mains du dev parce qu'il y avait plus de gestion de projet. Donc après cette alternance, au bout de 2 ans, où je faisais pas mal de gestion de SharePoint, qui est un logiciel de collaboration à Microsoft, ceux qui connaissent, ça m'avait un peu fatiguée du métier dans l'informatique, dans une DSI, ça me vendait pas trop du rêve à l'époque. Et j'ai complètement switché parce que je suis partie faire une thèse à ce moment-là. Je suis partie dans la recherche, donc j'ai fait une thèse en bioinformatique. Donc, je continuais de développer, je développais en Java à l'époque. Mais mon sujet, c'était les repliements de molécules d'ARN en 3D via des algorithmes de théorie des jeux. Donc là, ça a été 4 ans dans une bulle, dans un vase clos de recherche, en fait, concentré sur mon sujet particulier. C'était intéressant parce que j'étais aussi chargée de TD, comme souvent quand on fait de la recherche, en plus. Donc, je donnais des cours de SQL, des cours de logique, un peu tout ce qui passait sous la main. De toute façon, les chargés de TD, on prend tout ce
qui
passe.
C'est ça, tout ce qu'il y a et donne un peu de cours partout. Cours.
Donc, ça, c'était pas sympa quand même, ce passage de connaissances. Et après 4 ans de recherche, alors c'était très sympa, mais je me voyais pas rester dans la recherche. En fait. C'est un milieu, une culture particulière qui me convenait pas complètement. Et je suis retournée vraiment dans le développement en rejoignant une ESN Octo Technologies. Donc ça, c'était en 2016 à peu près. Où là, ça a été, après 4 ans de recherche, un peu dans ma bulle, une redécouverte, on va dire, du développement. J'avais un peu laissé le web...
De côté pour...
Je faisais du PHP, je faisais du jQuery. voilà. Entre-temps, il s'est passé beaucoup de choses. Ça commençait déjà à arriver, mais entre-temps, le front a complètement évolué. Il y a eu l'avènement de toute cette période autour des frameworks et tout ça. Et aussi beaucoup de pratiques de dev qui avaient évolué, que déjà on voyait pas à l'époque à l'école, qu'on voit pas toujours à l'école aujourd'hui, la philosophie du craftsmanship, des tests ou ce genre de choses. Mais donc voilà, il fallait se remettre à niveau d'un coup.
C'est ça. Comment t'as fait toi pour te remettre à niveau, on va dire, parce que on va dire tu délaisses un peu le dev, ça avance super vite. On sait que même tu laisses 3 mois, tu reviens pratiquement tout a changé. Comment t'as réussi, on va dire, à retrouver le fil?
Alors déjà, je pense c'est assumer qu'on sait plus rien, parce qu'il y a quand même des bases qui sont là. Le développement, on va dire la logique dans le cerveau qui fonctionne bien, ça va. Mais assumer que tout a changé déjà. De toute façon, on se le prend en pleine tête. Je me souviens quand j'ai commencé des entretiens après la thèse, on m'avait demandé si j'étais une dev front ou back. Et je me suis dit, je suis une dev. Depuis quand il y a cette séparation front back exactement? Donc c'est se dire bon bah c'est stop, il faut que je reprenne un peu les bases, que je vois un peu ce qui s'est passé. Par chance, à l'époque, effectivement, j'avais rejoint aussi Octo Technologies parce qu'ils avaient une petite formation de 3 semaines pour remettre à jour, donc ça m'a beaucoup aidé. Puis après, en mission, bah c'est se remettre au niveau d'un junior, parce que sorti d'école, parce que malgré tout, même avec une thèse, c'était un peu l'effet que ça avait. Bon, j'avais pas 23 ans, j'en avais 28, pas le même effet, mais de se dire bon bah je suis là pour apprendre. De toute façon, le dev, je pense que c'est quelque chose qu'on apprend tout le temps. Ça ne s'arrête jamais.
C'est ça, c'est ça. Une fois que tu es entré dedans, c'est le quotidien, c'est tout le temps, ça évolue, faut que tu restes à niveau.
Oui, mais c'est aussi se dire que les bases, elles sont là aussi, et pas se déprimer aussi à se dire, oh là là, faut que j'apprenne tout. Non, tu connais quelques langages de programmation, tu retrouves toujours tes petits à un moment donné, tu comprends la logique que les gens voulaient mettre derrière tel framework, ou l'utilité de tel test, de telle stratégie de test, et ainsi de suite. Tu le retrouves petit à petit et tu fais tes armes. Mais effectivement, en ayant des personnes qui t'accompagnent, ou pas mal en regardant ce qui se passe en conférence, c'est des choses que moi j'aime beaucoup faire, soit aller en conférence, soit quand je peux pas y aller, regarder les vidéos sur YouTube une fois la conférence passée, pour suivre un peu les mouvances, on va dire, du milieu de développement, et encore plus front, qui bouge plus rapidement que les autres.
C'est ça. Donc il faut, si je comprends. Si je comprends bien, c'est que là, on va dire, t'as choisi le côté front. T'as répondu à cette question-là, question développeuse front.
C'est, je me considère un peu comme full stack. J'aime toucher à tout en fait. C'est vrai qu'avec ma thèse, j'ai eu une période un peu plus, on va dire, data scientist. J'aime bien le back, j'aime bien tout ce qui est base de données. J'aime bien le front aussi. J'aime bien des sujets qui peuvent être très fronteux, comme l'accessibilité ou ce genre de choses. J'aime bien toucher à tout, et je trouve ça important de pouvoir toucher à tout. On parle souvent des compétences en T, t'es les gens qui soit touchent un peu à tout, soit se spécialisent. Je suis clairement une barre horizontale. j'aime bien un peu toucher à tout. Je vais pas me concentrer sur un framework en particulier. J'ai pas de framework favori où je dis faut absolument faire du Vue, faut absolument faire du React. Disons que je dois aussi me dire que ça évolue tellement vite que une époque, je faisais du Flash, c'est complètement mort, l'ActionScript est mort. Enfin, voilà, on ne sait pas comment ça évolue, donc j'ai du mal à m'attacher aussi à une techno.
C'est ça, mais on va dire aussi, t'as l'expérience aussi, parce que t'as lâché un petit moment, t'as vu que ça évolue vite, donc tu sais que tu vas pas t'attacher à quelque chose, tu vas un peu toucher à tout, histoire de rester aussi à jour sur un peu tout. Et c'est vrai que je trouve ça aussi important de pas, enfin moi j'aime bien aussi dans la même idée, de pas rester vraiment focus sur une seule chose. Essayer de toucher à tout, et voilà, on voit où est-ce que ça mène.
Oui, complètement. Puis, c'est vrai que là, j'ai pu refaire du dev en mission, donc chez des clients avec une ESN. Un de mes clients, ça a été Pix à l'époque, chez qui je suis maintenant depuis 6 ans. J'étais dev, puis lead dev, donc ça demande effectivement encore beaucoup de mettre les mains dedans en technique. Donc, on commence à avoir d'autres rôles aussi. Puis, il y a eu un changement de CTO, et je me suis retrouvée effectivement co-CTO. Où là, ben, en fait, on a quand même moins les mains dedans. En tout cas, pas la taille qu'on est actuellement. Donc, ça fait que tout ce qui est, toute cette partie tech, on la regarde aussi très différemment. On est curieux, mais on prend aussi du recul en disant, je ne peux pas me lancer dans, enfin, à part pour jouer un petit peu dans mon coin, je vais pas me lancer dans une nouvelle techno, parce que, en fait, faut qu'elle tienne le coup sur la longueur, faut que j'arrive à, que mes équipes suivent aussi le mouvement, montent en compétences dessus. Et ça fait regarder un peu toutes ces technos et toutes ces évolutions avec un peu de recul et pas juste sauter sur le premier truc qui brille, qui est présenté tous les 3 mois globalement.
C'est ça. Est-ce que tu peux nous dire un peu c'est quoi le rôle d'un CTO? Parce qu'on voit, enfin, il y a beaucoup de, on va dire, de juniors qui voient ce nom-là, CTO, mais le quotidien d'un CTO, c'est quoi?
Alors, je dirais en tout cas qu'il y a beaucoup de CTO différents. Ça dépend vraiment déjà de la taille de la boîte. Un CTO dans une boîte de 15 personnes, c'est pas pareil que 150, qui est mon niveau actuel, et encore moins au-dessus. Et il doit y avoir un type de CTO par personne qui a ce rôle, globalement. Les CTO, on essaie de gérer un peu la stratégie globale de la boîte en termes de tech, savoir où on veut aller, comment on veut y aller, essayer d'avoir un peu de la vision sur les gros challenges qui nous attendent, comment on va les traiter techniquement, organisationnellement, quelle stratégie on va mettre derrière. Et je vois un peu mon métier personnellement comme essayer de construire le meilleur environnement pour que les devs, les data, les ops puissent s'épanouir, travailler à la mise en place de solutions, le meilleur produit pour nos utilisateurs. Et moi, j'ai plus les mains dedans, par contre.
C'est ça. Un peu de loin.
Mais voilà, un peu animer cette communauté interne au sein de l'entreprise technique, ça peut être animer des ateliers, apporter aussi notre point de vue tech, une vision globale pour que toutes les équipes soient à peu près alignées, être là en conseil et rappeler aussi un peu la culture, les bonnes pratiques qu'on souhaite pour l'entreprise.
Ok. Donc toi, tu m'as dit, ça fait 6 ans que t'es chez Pix. Donc ça fait un petit moment. Donc on va dire, si ça fait 6 ans, c'est que ça te plaît quand même. T'es bien dans, t'es bien dans ton quotidien. Et toi, c'est quoi qui te plaît vraiment dans ce métier-là de CTO?
Je pense que ce qui me plaît, c'est qu'on est là pour construire un peu une communauté des produits. Et ça va être surtout quand les équipes vont réussir à sortir un gros sujet, qui sont super contents d'eux. Ah, moi, je suis contente. Ça fait ma journée aussi. Ou quand on peut passer 2 ou 3 heures dans un atelier sur un sujet compliqué qui bloque, essayer de réfléchir ensemble la meilleure solution avec toutes les problématiques qu'on peut avoir, toutes les contraintes aussi qu'on peut s'imposer ou qu'on nous impose. Ça, c'est intéressant, un peu ce mélange d'idées et de réflexions et cette vue un peu large qu'on peut avoir à ce niveau-là.
Ok. Et toi, t'es une personne. Tu m'as dit que t'aimais bien coder, t'aimais bien toucher un peu à tout. Bah, mis à part ce point, on va dire négatif, comme t'es CTO, tu codes plus beaucoup. T'en vois d'autres, toi, des points négatifs. Moi, pour l'instant, à mon niveau, ça, c'est un gros point négatif. J'aime beaucoup coder. Et je me vois pas encore dans ces rôles-là.
C'est quelque chose qui revient régulièrement et dont on peut parler entre CTO. C'est vrai qu'on code moins. Il faut pas qu'on code non plus, en fait, parce qu'on va créer plus de bruit qu'autre chose. Les gens vont avoir plus de mal à être parfois un peu critiques sur notre code parce que, oh là là, c'est le CTO.
Oui, c'est le CTO.
Alors qu'en fait, on peut écrire les mêmes bugs que les autres. Hein. On est des devs aussi comme les autres. Et en plus de ça, le temps de prendre les reviews et d'envoyer le code, il peut se passer des jours et des semaines parce qu'on est parti sur autre chose. Donc, c'est vrai que à 15, quand t'es dans un CTO, dans une petite boîte, tu codes encore, t'as encore les mains dedans. Là où je suis, on est 150, il y a une cinquantaine de personnes côté engineering. À 50 personnes, je vais pas les embêter à vouloir faire passer ma PR au milieu des leurs. Je vais laisser tomber. Donc, de temps en temps, je fais partie du CTO qui essaie de coder 2-3 trucs par-ci, par-là pour pas perdre la main aussi. Donner du temps aussi pour coder. Mais non, ce qui peut être, ce qui va avec ce mauvais côté, mais je pourrais en reparler, c'est aussi une habitude, c'est que on perd du code, mais on gagne beaucoup de réunions.
Je vois.
Parce que c'est des questions de synchronisation avec le comité de direction, avec les équipes, avec les métiers, avec le produit. Donc ça peut être un peu fatigant toutes ces réunions. Et l'autre point moins agréable, on va dire aussi, c'est que dans notre tête ou dans notre cœur, on peut rester des devs globalement, mais on a quand même cette casquette de CTO et parfois c'est plus difficile d'être challengé par les autres. Ils osent moins. On a beau leur dire, allez-y, challengez-nous, je dis peut-être n'importe quoi, vas-y, dis-le. Voilà, ça dépendra des gens. Parfois, il y a des personnes qui se disent, ouais, quand même, c'est le directeur technique. Voilà.
C'est ça.
Non, mais challenge-moi. On est aussi des devs comme des autres avec des connaissances, des compétences et une histoire autour de développement qu'on a pu faire différente. Dis-moi si je dis de la merde, entre guillemets. Ça peut m'arriver aussi, quoi.
Yes, mais moi je trouve ton discours bah, super important parce que moi tu vois je suis un junior donc c'est vrai que j'aurais cette image bah, le CTO bon, je vais pas trop l'embêter c'est quelqu'un d'expérimenté et tout mais c'est vrai que c'est important de le dire que bah, vous êtes des devs comme nous et qu'on peut de temps en temps essayer de vous dire ah, peut-être que tu as oublié ci peut-être que tu as oublié ça et voilà je trouve ça peut-être important dans le rôle de CTO d'être humble non?
Oui, tout à fait. Il y a quand même le risque où, même si on essaie de suivre tout ce qui se passe, d'être à la page, c'est pas nous qui avons les mains dans le code, c'est pas nous qui allons coder à la fin, en fait. Et la vérité, c'est le code. Avoir fait toutes les réunions, les schémas du monde, tout ça. Hein. La vérité, elle sera dans le code du produit, en tout cas. Et bah, c'est les devs qui la connaissent le mieux. On peut oublier des détails d'un plème que eux, ils sont passés sur le code la veille et qu'ils l'ont vu, qu'ils font, attends, on avait mis ça, c'est bizarre, ça va pas avec et tout. Donc c'est des visions différentes et pour moi elles sont toutes intéressantes. Faut que tout le monde puisse avoir un peu son mot à dire. Autant apporter, on va dire, avec le point de vue CTO, le point de vue global, un peu plus long terme, un peu attention, il y a d'autres équipes à côté, elles bossent sur ça, on a cette vision-là stratégique avec le comité de direction, donc attention, ne pas aller par là. Mais vous avez aussi les mains dedans, vous savez comment ça marche un peu plus au jour le jour, et vous pouvez dire, mais attendez, on a mis ça hier, là ça va pas passer. Enfin, les deux sont intéressants, en fait. Pour moi, il n'y en a pas un qui est censé prendre le pas sur l'autre. Faut entendre les deux.
C'est ça, faut essayer, on va dire, de cohabiter et de faire bah, tout fonctionner tout ce monde ensemble aussi.
Tout à fait.
Et du coup, bah, pour rebondir un peu, est-ce que tu peux nous parler du projet que, bah, que vous faites chez Pix?
Alors, Pix, c'est une plateforme en ligne disponible pour tout le monde. Vous pouvez y aller sur pix.fr, pix.org côté international. Et c'est une plateforme d'évaluation, de développement et de certification des compétences numériques des citoyens. Donc, on est là pour savoir si les gens ont un bon niveau en numérique et si besoin, bah, les aider à améliorer leurs compétences numériques, savoir faire une recherche sur Internet, modifier des fichiers Excel ou plein d'autres compétences. Et il y a du boulot parce que bah, il y a une grosse fracture du numérique. On met beaucoup de choses en ligne, on met beaucoup de devs à faire plein de sites web, mais si les gens savent pas les utiliser, bah, ça ne servira pas à grand-chose
C'est
globalement.
ça, c'est ça. On va dire quand on est dans la tech, on est un peu enfermé dans une bulle où on se dit bah tout le monde sait comment ça fonctionne. Mais bah, par exemple, bah, je vois ma famille, j'ai des tantes bah, qui maîtrisent pas tous les outils. Et, bah, je trouve ça un très beau projet. Je vois souvent, par exemple, dans la médiathèque où je vais, il y a des petits ateliers comme ça. Et, enfin, on oublie nous, on oublie que c'est pas tout le monde qui est dans la tech et c'est pas tout le monde qui peut s'en servir facilement. Bah, je mettrai le lien dans la description puisque ça peut être intéressant pour certaines personnes. Est-ce que tu aurais des petits conseils pour, on va dire, une personne qui souhaiterait avoir le même parcours que toi? École d'ingé, CTO, tout ça.
La partie un peu dev, il y a déjà beaucoup de conseils. T'en donnes plein déjà dans ton podcast et tout. Mais la partie tout d'un coup CTO, je pense que ce qui est important, c'est de déjà pour arriver sur ce genre de poste, que ça soit lead ou en tout cas monter, on va dire si on peut dire dans ce genre de poste, c'est de jamais être en position passive quand il y a un souci. En fait, c'est vraiment une posture plus que des connaissances et des compétences, en tout cas de mon point de vue. Quand il y a quelque chose qui va pas, être en posture, dire je vais te dire déjà qu'il y a un truc qui va pas, je vais le prévenir, ça peut être des rétros, si les gens font des rétros, ou d'autres moyens, et essayer de trouver des solutions. Et c'est comme ça que petit à petit, on voit un peu comment ça fonctionne, un peu tout cet écosystème dans lequel on est au sein de l'entreprise. Et c'est comme ça qu'on commence à donner des coups de main aux leads d'à côté, des équipes, possiblement au CTO, qu'on comprend ce qui se passe, et par conséquent qu'on accumule beaucoup de connaissances. Sur comment faire, qu'est-ce qui est possible et tout. Et donc petit à petit, à force de se dire il y a un problème, je vais essayer de trouver une solution, en tout cas d'aider à trouver une solution et pas être uniquement dans une posture de ah il y a un problème, je le remonte en haut et puis j'espère qu'il se passe quelque chose. Ceux d'en haut, ils ont aussi plein de choses à faire.
C'est
On
ça.
les pattes le plus souvent, il y a aucun problème. Donc je pense que ça aide un peu à comprendre ce qui se passe et à se mettre aussi dans cette posture de penser équipe. Plutôt que de penser mon ticket, mon développement. Après, je conseillerais de ne pas être seul au besoin, par plein de moyens. Ça peut être des coachings, il y a plein de communautés sur Internet, bah déjà de dev, mais aussi de CTO. On a aussi nos communautés pour se soutenir, parce que ça peut être un peu fatigant et difficile. C'est des métiers où plus on monte, plus on se sent seul de temps en temps.
C'est ça, avec beaucoup de réunions aussi, par exemple, ça peut être très, très, très fatigant.
Complètement. Et surtout, le dernier point, je trouve, c'est assumer que c'est pas exactement le même métier et apprendre à vivre avec, c'est-à-dire apprendre à avoir du kiff différemment, apprendre que ce qu'on a fait était productif dans la journée alors que c'est pas mesurable en tickets, en bugs fixes, en
C'est
paires
vrai.
ouvertes. C'est beaucoup moins mesurable ce qu'on fait, donc on peut terminer la journée en disant mais j'ai rien fait de ma journée, j'ai rien fait de ma semaine. Parce qu'on a tellement été formaté à se dire mon métier se mesure entre guillemets, j'ai plein de d'analytics qui me permet de suivre si j'ai été bon ou pas, cette petite blague des tableaux GitHub avec des cases vertes, j'ai plus de cases vertes dans mon GitHub. Et voilà, c'est vraiment le voir son métier différemment en se disant ça m'a fait kiffer, ça j'ai apporté de la valeur, pas moi directement, mais voilà, se mettre dans une position où on se dit j'en apporte à l'équipe et l'équipe en apporte à la fin, donc dans un sens j'en ai apporté, qui peut être un peu compliqué au départ, mais frustrant si on le fait pas, parce que sinon on a l'impression de servir à rien, en fait,
C'est
à
ça,
faire de la vie.
mais comme tu dis, en fait, t'as plus ce truc-là où tu vois vraiment ton travail. Je pense que, enfin, ça peut être très déroutant. Parce que nous, en tant que dev, on va dire que, bah, tu vois que t'as fait une pull request, tu vois que t'as fait tant de tickets cette semaine. Mais si on m'enlève tout ça, je sais pas comment je pourrais réagir. J'ai fait quoi? C'est vraiment, c'est réel ce que tu dis. C'est que ça peut être déconcertant. Et comme tu dis, je pense qu'il faut s'entourer. Je pense qu'il faut s'entourer de communautés d'autres CTO.
Rien qu'en parlant avec les autres, on se rend compte que tout le monde a le même sentiment. Donc déjà, c'est rassurant. On se dit que c'est pas que nous. Que tout le monde a un peu les mêmes problématiques aussi. Souvent, les problèmes qu'on peut rencontrer, c'est des problèmes assez systémiques, à partir d'une certaine taille. Humainement, il se passe ça. Alors, tout le monde va avoir un peu les mêmes problèmes. Donc c'est rassurant. Il y a des solutions et des approches pour tout. Donc c'est important de ne pas être seul. Mais comme je disais, quand tu commences dans le dev, et même au-dessus, il y a d'autres communautés, il faut continuer de voir un peu ce qui se passe à côté.
C'est ça. Et toi, tu te vois rester dans ce rôle de CTO ou tu, enfin, dans l'avenir, retourner au dev ou partir dans faire autre chose encore?
C'est une grande question. De temps en temps, j'aimerais bien redev un petit peu, quand même. Je pense que même si je redeviens dev, voir un peu comment ça se passe au-dessus, comment les décisions sont prises, toutes les problématiques de stratégie qu'il peut y avoir derrière, fera que même si je redeviens dev, j'aurai une tendance à aller jeter un peu ce qui se passe et essayer de comprendre, voire essayer d'aider, parce que je considère qu'en fait le code, c'est presque la partie la plus simple. On sait déjà où on veut aller, on sait déjà ce qu'on veut faire. Que l'utilisateur comprenne bien son besoin et qu'on sache où est-ce qu'on veut aller, c'est presque le plus complexe. Après, techniquement, on trouvera toujours des solutions plus ou moins simples à mettre en place.
C'est ça.
Plus ou moins longue, mais on trouvera toujours une solution globalement. Et après, ça c'est marrant, j'ai envie de dire, de trouver des solutions à des problématiques. Mais trouver la bonne problématique et mettre les bonnes personnes autour de la table, c'est ce qui peut être le plus compliqué de temps en temps pour les entreprises. Et même si je redeviens dev, je pense que j'aurais du mal à pas mettre mes mains là-dedans parce que on voit les problèmes, après on voit ce qui va pas et c'est très dur de rester, comme je disais, complètement passif face à ces problématiques.
C'est ça, ben on va dire, t'as touché à énormément de choses, donc rester que dans un domaine, ça va être compliqué pour toi.
Continuera à toucher à d'autres trucs et à bouger, mais
Non, mais c'est important. De toute façon, tant que tu t'épanouis, je pense que c'est le plus important, c'est de s'épanouir et vraiment de découvrir au quotidien. De toute façon, c'est tellement large, en fait, la tech, que c'est quasiment, on va dire, difficile de s'ennuyer.
clairement, puis il faut juste que les gens trouvent le rôle qui leur convient. Moi, là, le rôle de CTO, de la manière dont je le fais, me convient. Plein d'autres personnes à qui ça conviendrait pas. C'est pas grave, en fait. La tech est large. Si tu veux te concentrer purement sur la
C'est
tech,
ça.
y a pas de souci. Il y a la place pour ça. Si tu veux avoir des compétences plus larges, il y a aussi la place pour ça. Je pense que c'est surtout important d'avoir des profils très différents au sein d'une même équipe. Parce que s'il n'y a que des experts techniques, je suis pas sûre que ça se passe bien non plus.
C'est ça.
Voilà. Et en même temps, c'est intéressant, voilà, d'avoir un peu un mélange d'approches, de visions, de connaissances, de backgrounds différents. C'est ça qui font des bonnes équipes et des bons produits derrière.
C'est ça. Bah, de toute façon, on voit la tech, c'est vraiment un milieu où il y a une diversité incroyable. Il y a des parcours vraiment de, enfin, il y a de tout dans la tech. Et je pense que c'est ça qui fait la force des entreprises, c'est qu'il y a il y a tellement de profils. Et vous, du coup, chez Pix, vous êtes plutôt, on va dire, télétravail ou plutôt sur site? J'aime bien poser cette question.
Alors nous, on est un groupe d'intérêt public, donc on est un peu étatique, donc on n'a pas non plus la main complètement libre sur télétravail ou pas. Donc on a un certain nombre de jours de télétravail, mais on en fait pas mal, surtout côté tech. Donc on commence aussi à avoir des gens un peu partout en France qui de temps en temps reviennent sur Paris quand il y a besoin. Mais oui, en tout cas, on pense notre travail en télétravail et de temps en temps, on est sur place et ça se passe bien, on en profite. Mais on pense télétravail. Ouais. C'est quelque chose maintenant où j'aurais du mal à revenir en arrière.
Ah, je pense qu'il y a, beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là. Après, comme tu dis, c'est de temps en temps au bureau, c'est bien voir un peu les collègues, voir l'équipe. Mais mon quotidien, pareil, c'est le télétravail. C'est, si on m'enlève ça, c'est compliqué. En tout cas, merci à toi d'être venue, Mélanie. Est-ce que tu aurais un petit mot pour la fin, un petit conseil, une petite, je sais pas, un petit truc que tu veux nous rajouter?
Je dirais que c'est pas obligatoire d'aller tout de suite vers le management quand on est dev. C'est vraiment ou vers des rôles un peu plus de lead. C'est vraiment à vous de voir. Mais en tout cas, si je dirais que tout le monde devrait être un peu curieux de ce qui se passe à côté, de ce que font les autres, même. À des niveaux à côté ou supérieurs, pour comprendre un peu leurs problématiques et se projeter possiblement dans des choses auxquelles on n'aurait pas pensé dès le départ. Juste être curieux de tout et des autres.
C'est vrai que je pense que c'est une des bases du métier, hein, c'est d'être curieux, c'est de voir, comprendre comment ça fonctionne. Et des fois, tout se débloque. Dès que tu as compris, dès que tu as regardé ailleurs, c'est là que le chemin s'éclaire. Donc, un grand merci à toi, Mélanie, d'être venue. Ça m'a fait plaisir de t'avoir aujourd'hui. Et je te dis à très bientôt.
Merci à toi pour tes questions. Puis bonne continuation à toi, à ton podcast.
Merci beaucoup. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu. Tu peux me soutenir en mettant une note sur Spotify ou Apple Podcast. Et en partageant cet épisode à quelqu'un de ton entourage. Je te donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau Parcours Tech. En attendant, retrouve-moi sur mon Twitter, @mansjs. À bientôt.